Acte 1. Le vampire Ototis, Infernalis.
Royaume. Animal. Embranchement. Mollusque. Classe. Céphalopode. Famille. Vampirotetidae. Genre. Vampirototis. Calamar vampirique de l'enfer. Nous allons vous raconter une fable. Une histoire venue des abysses qui interroge notre condition humaine et nos rapports aux technologies numériques. L'histoire que nous vous livrons est celle d'un céphalopode, cousin du poulpe et du calamar, vivant dans les abysses. Cette espèce singulière a été retrouvée dans les mers de Chine à la fin du XVIIe siècle lors d'une grande expédition scientifique, Valdivia. À cette époque, l'Allemand Carl Schön identifie l'animal comme appartenant au registre des poulpes. Il fut pêché et ramené mort à la surface de nos terres pour une étude minutieuse. Pourtant, il n'est ni poulpe ni calamar et se refuse à notre taxonomie scientifique. Ses yeux et son cerveau ressemblent d'ailleurs étrangement aux nôtres. Aujourd'hui, nous pouvons observer le Vampirototis infernalis à l'aide de vaisseaux sous-marins descendant à des milliers de mètres de profondeur. Nous avons même construit un aquarium à haute pression pour l'accueillir au sol de notre surface, en Californie. Nous savons qu'il n'est ni pieuvre, ni calamar, mais qu'il possède son ordre spécifique, celui des Vampiromorphida. L'eau qui se situe autour de nous est à la surface de ces enfers. Il nous faut descendre, au plus profond, pour trouver cet être vampirique fabuleux. Imaginez un instant qu'à travers une créature octopode puisse apparaître le miroir de nos existences contemporaines baignées de médias numériques. Vous entendrez parfois la voix de Flusser, parfois celle de son ami Louis Beck, parfois celle du Vampirototis infernalis. Aussi loin que puisse être le vampire des abysses, nous partageons tout de même avec lui la particularité d'un psychisme en proie à des milieux d'informations très complexes. Intelligence tentaculaire. À quoi ressemble-t-il ? Le vampire des abysses peut faire jusqu'à 12 mètres de diamètre. Son manteau gélatineux varie du noir velours au rouge pâle, selon le lieu et les conditions d'éclairage. Une membrane de peau relie ses 8 bras, chacun bordé de rangées d'épines charnues ou pointues. L'intérieur de cet habillage est noir. Seule la moitié la plus éloignée du corps des bras est munie de ventouses et de photophores. Ses gros yeux globuleux varient du rouge au bleu selon l'éclairage. Les adultes ont une paire de nageoires, semblables à des ailettes ou des oreilles, en saillie sur les côtés latéraux de leur manteau. Lorsqu'ils les agitent, le vampire des abysses semble voler dans l'eau. Du point de vue métabolique, tout nous oppose. L'évolution a fait de nous des êtres bipèdes, préférant la station debout et la marche. Chez ce mollusque, c'est tout l'inverse. La tête et les pieds coïncident, la bouche et l'anus se rapprochent. Vampirototis habite le monde en spirale. Sa ligne est un cercle. Le vampire des abysses est entièrement couvert d'organes produisant de la lumière, appelés photophores. L'animal a un grand contrôle sur ses organes, capable de produire des flashs de lumière toutes les fractions de seconde jusqu'à plusieurs minutes pour désorienter leurs prédateurs. Le vampyrototis produit des nuages, la sépia, qui flotte dans l'eau. Ses attributs biologiques sont la manifestation d'un langage interspécifique. Fermez les yeux. Imaginez un animal lumineux, avec une cape. D'abord, replié sur lui-même, il doit étendre son manteau pour s'ouvrir au monde. Il est littéralement capable d'absorber le monde. C'est un vampire bien inoffensif. Sa cape est un leurre. Un jeu, avec la perception des autres. Il se contente, pour se nourrir, de la pluie des planctons qui flottent tranquillement autour de lui. Son mets favori est une neige lumineuse qui traverse les profondeurs. Il est le reflet de notre humanité. En tout point, il nous diffère. Nous voyons en lui le miroir de notre condition. C'est le Vampyrototis infernalis.
L'homme vient des continents.
Le Vampyrototis des abysses.
Nous aspirons à la lumière.
Il s'est enfoncé dans l'obscurité des océans.
Si notre espèce est relativement récente,
la sienne date des temps les plus anciens. Il ne tolère pas l'air que nous respirons.
Tandis que nous serions écrasés par la pression dans les abîmes qu'il habite.
Il est mollusque.
Nous sommes squelettes, l'homme pensant en deux dimensions.
Vampyrototis en trois.
L'homme est cartésien.
Vampyrototis est dynamique.
Nous éprouvons la Terre, nous la manipulons de nos mains.
Il absorbe le monde, sa représentation en est expérientielle.
Nous œuvrons pour Dieu.
Il œuvre pour le diable. Le monde que saisit le Vampyrototis est un tourbillon, fluide et centripète. Il le saisit pour distinguer chacune des influences du monde sur lui. Ses tentacules, par analogie à nos mains, sont des organes digestifs. Notre forme de saisie est active, nous traversons un monde stable et subsistant. Sa forme de saisie est passive, passionnelle, passionnée. Il accueille un monde qui afflue vers lui. La main et la tentacule, deux formes de perception du monde, deux arts divergents.
Acte 2. L'art vampyrototique.
Dans sa nuit éternelle, le Vampyrototis utilise la lumière pour communiquer. Il peut transmettre des informations lumineuses jusqu'à plusieurs minutes, leur donner une forme spécifique. Il peut éjecter du bout d'un bras un nuage de mucus collant, bioluminescent, contenant d'innombrables orbes de lumière bleue. Il peut s'agir d'un geste instantané ou d'une œuvre plus longue. Son corps est sa toile, son appareil de transmission d'informations. Pour nous, l'art résiste au temps. Les peintures, les statues, les cathédrales demeurent dans une forme d'éternité. Dans les abysses, les matériaux ne tiennent pas. Mais qui, de l'être humain ou du Vampyrototis, voudrait tomber dans l'oubli ? Personne. l'art, cette action que l'on attribue à l'être humain, va à l'encontre du néant. Il inscrit dans la pierre, le bois ou tout autre médium des informations. L'art est une façon de transmettre ces informations pour l'éternité. Du point de vue du vampire Otis, l'art humain est dérisoire. Dans son habitat liquide, seules des informations biologiques ou génétiques peuvent s'installer dans le temps. La finalité de l'art, qui est de transmettre des informations dans des objets stabilisés, ne fonctionne pas. L'art devient intersubjectif et immatériel. Le vampire manipule quand même des sortes d'objets. Des objets particuliers, des objets biologiques, vivants, éphémères. La couleur, la lumière, les nuages de sépia. Il peut donner forme à des nuages, il peut émettre de la lumière, activer la bioluminescence de son corps. Certes, il l'utilise pour échapper à ses prédateurs, mais aussi, et c'est bien là le plus important, pour transmettre des informations. Ces informations visent à duper son destinataire. L'art, chez le vampire, est une tromperie. C'est un viol de l'autre, visant l'immortalisation dans l'autre. L'art comme stratégie du viol, de la haine. L'art comme duperie, comme fiction, comme mensonge. L'art comme apparence trompeuse et donc comme beauté. Le tout dans une atmosphère orgastique. Notre monde rempli d'objets est un monde perfide. L'objet résiste à l'information, le marbre reste marbre, et le marbre est détruit par le temps. L'art humain n'est pas l'incarnation du beau. L'art est la réalisation des expériences d'un individu dans un objet, tout à la fois. Ses connaissances, ses valeurs et ses sensations. C'est un moyen de s'entretenir avec l'éternel. Or, le vampire ne s'attache pas à l'objet et ne se réalise pas à travers lui. Pour le vampire, l'éternité s'acquiert dans l'autre. Tentacules, chromatophores, nuages sépia, bioluminescence vont au-delà des objets. Le vampire ne se frotte pas à la résistance du matériau, mais à celle des esprits qui habitent les autres. Que se passe-t-il aujourd'hui, alors que nos informations sont stockées dans des programmes cybernétiques ? C'est-à-dire... quand on y réfléchit bien, que nous sommes nous-mêmes des corps en train de nous faire vampirotiser, constamment à l'affût d'informations immatérielles, éphémères, intersubjectives. Vous êtes en ce moment même en proie à une vampirotisation totale. C'est sur nous que s'exerce le viol des esprits. Pour le vampire, bien sûr, la situation est différente. Il est tout à la fois pouvoir totalitaire et résistance. S'il cherche à imprimer ses souvenirs en autrui, il est également le programmateur de cette inscription. Et donc, le vampire Ototis ne la subit pas. Nous, êtres humains du 21e siècle, serions alors en passe de nous vampirototiser. L'art devient intersubjectif et immatériel. Avec l'automatisation des machines, l'objet devient une camelote, marchandise, bien de consommation. Seulement, la machine, l'appareil, devient chez le vampire l'organisme lui-même. Nous digérons nous aussi petit à petit ce monde numérique qui est en passe de coloniser les moindres facettes de nos existences. Nous y sommes immergés, comme le vampire Ototis. Nous filtrons sans arrêt les informations, rejetons, gardons, archivons, maintenons en vie un capital informatique. Nos nuages à nous, nos données sont notre plancton. Ne nous trompons pas. Nous ne sommes pas vampires Ototis et ne le serons jamais. Nous ne vivons pas dans les abysses, les ténèbres noires d'une nuit éternelle. Nous sommes des bipèdes qui pensons le monde avec nos mains. Nous devons chercher en lui l'ambivalence, la contradiction, l'immersion dont la surface nous prive. Que pouvons-nous faire alors? Si la culture de masse du numérique revient à faire de nous des vampires des abysses, la contre-culture numérique revient au contraire, à apporter un soin aux objets médiateurs du numérique, que ces derniers soient considérés au rang d'objets d'art. Nos clouds, objets de communication, peuvent relever d'un art intersubjectif dans lequel nous aimerions faire passer des expériences. Voilà ce que nous pouvons faire.
Acte 3. Notre monde vampirototique.
À des milliers de mètres de profondeur, les abysses abritent un être octopodal. Et s'il est aujourd'hui possible par la science de synthétiser un vampirototis artificiel ou de concevoir une hybridation vampirototis humaine, là n'est pas l'intérêt de cette fable. Quelle est la morale de cette histoire? Flusser ne nous le dit pas. Pourtant, quelques dizaines d'années plus tard, nous pouvons risquer quelques hypothèses. Nous marchons sur la surface des océans. Les fossiles de vampires Ototis retrouvés dans la voûte sur Rhône nous le rappellent. Le vampire était là bien avant nous, tapis dans les profondeurs, et il commence à sortir des abysses. Il remonte par les temps géologiques et se mêle à nos habitus numériques. Le monde du vampire Ototis infernalis est le nôtre. Cela peut vous paraître étrange, il vit à des centaines de mètres de profondeur, à cette distance, la pression est immense. La nuit est éternelle, mais les sons se propagent très bien. À cette distance, peu d'animaux survivent encore au manque d'oxygène et à l'acidité de l'environnement. Pourtant, ces abysses sont aussi les nôtres. Pensons à la situation contemporaine, du moins celle du modèle occidental, bardée de capteurs et de sons dans tout genre. Caméras, appareils photo, dispositifs de géolocalisation, etc. Pensons également aux masses d'informations circulant sur les réseaux. Notifications, mails, sollicitations en tout genre. Nous avons de plus en plus de mal à nous orienter dans un monde entièrement tissé de données numériques. Notre milieu technique, celui du calcul et des langages de programmation informatique, est un monde de l'invisible, en proie aux pires manipulations, mais également ouvert à des formes de création qui restent encore largement à explorer. tel le vampire Ototis, nous sommes immergés dans ce milieu. Barbotant dans ses données comme un poisson dans une petite mare d'eau, nous ne savons plus comment filtrer ce qui se passe en nous, ce qui infiltre nos subjectivités sans que l'on s'en rende compte. Nous cherchons de nouvelles métaphores, de nouveaux récits pour comprendre le réel. Et c'est là qu'intervient le poulpe des abysses, dont l'éloignement géographique et temporel joue comme un miroir de notre condition contemporaine. Il nous faut descendre dans les abysses et au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau. Sans lumière, entre 600 et 900 mètres de profondeur, voire plus, la région des océans qu'habite le vampire Ototis Infernalis constitue un habitat pauvre en oxygène. Cette obscurité, cette condition de l'invisible est comparable à la fascination que nous éprouvons pour les boîtes noires, des dispositifs technologiques qui façonnent notre quotidien. Dès lors, pourrions-nous apprendre du poulpe comment naviguer avec aisance et élégance dans ces pluies de plancton ? Pourrait-il nous enseigner à trier ce qui nous est inintelligible ? Telle est pour nous la morale de cette histoire. Allez chercher dans le modèle octopodal une nouvelle façon de raconter ce monde qui afflue en nous. Allez chercher dans sa tromperie des manières de nous conduire en ce monde.